sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Vous nous appelez et vous prenez la parole sur l'antenne de RFI. Nous sommes vendredi, c'est donc la libre antenne. Dans 30 minutes, vous pourrez commenter l'actualité de votre choix. Vous êtes très nombreux à nous interpeller sur la crise politique au Mali où une nouvelle manifestation est prévue cet après-midi pour réclamer une fois de plus le départ du président Ibeka. Des réactions également sur la mobilisation de l'opposition au Niger et ce, à quelques mois de la présidentielle. Vous nous interpellez également sur le procès de Vital Kamerhe en RDC. Le verdict est attendu demain. 20 ans de travaux forcés ont été requis contre le directeur de cabinet du président de la République. Toujours en RDC, certains d'entre vous souhaitent profiter de l'émission pour lancer le débat sur le salaire des députés. Et oui, les députés congolais réclament une augmentation de 2 000 $. Ils sont déjà payés 6 000 $ par mois. Ils réclament 2 000 $ supplémentaires. La société civile est vent debout. Nous reviendrons, si nous avons le temps, évidemment, sur ces statuts qui font polémique. On en a longuement parlé cette semaine ensemble, ces statuts de personnages historiques associés à l'esclavage ou à la décolonisation, et puis aussi quelques réactions concernant la prestation de serment hier du nouveau président burundais. Voilà donc quelques-uns des sujets qui nous arrivent au standard sur les réseaux sociaux. La libre antenne dans 30 minutes, mais d'abord, comme tous les vendredis en première partie d'émission, vos témoignages sur la pandémie de coronavirus hier. Si vous écoutiez l'émission, en répondant à la question d'un auditeur, Michel Yao, le responsable des opération urgence pour le bureau Afrique de l'OMS, confirmait que la pandémie accélérait en Afrique. Alors vous me direz, pour le moment, le continent ne compte que 3% des cas recensés à travers le monde, mais la courbe de progression n'est pas rassurante, nous disait hier Michel Yao. Ce sera donc l'occasion, durant ces 20 prochaines minutes, de vous donner la parole, témoigner, racontez-nous quelle est la situation sécuritaire dans votre pays, dites-nous si les mesures sont adaptées, sont appropriées, la riposte est-elle à la hauteur. Vous êtes nombreux. Innocent est déjà au standard, on lui donne la parole tout de suite. Bonjour Innocent.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Yaoundé, vous êtes donc au Cameroun, et vous saluez la décision du gouvernement d'alléger les mesures de confinement.
Oui, effectivement, parce que, vous savez, avec le confinement, pour moi, c'est un peu très dur, la population ne peut même pas s'en sortir. Parce que quand il y a le confinement, les gens n'étaient pas sortis travailler parce que la population vit du jour en jour ici au Cameroun et surtout à Yaoundé, quand vous constatez bien.
Et donc c'est un soulagement, j'imagine, pour vous, un soulagement pour la population. Il y a eu une étude publiée ces jours-ci et réalisée par l'Institut National de la Statistique, étude qui révèle que près de 63% des ménages au Cameroun ont vu leur niveau de vie baisser depuis le début de l'épidémie. C'est votre cas également, Innocent ?
Très bien, très bien. Même moi-même, j'ai constaté, je travaille dans une société, parce que moi, je suis étudiant centrafricain. Et je travaille d'abord pour payer mes loyers, pour payer l'électricité, payer l'eau et payer mes fournitures d'école. Bon, quand il y a le confinement déjà, on a fermé la société. Donc, durant un mois et demi que je fais à la maison, je ne travaille pas. Donc, c'est un peu difficile
pour
moi. Donc,
un mois et demi sans travailler, un mois et demi sans salaire.
Effectivement, c'est ça, Juan. Oui. Donc, c'est un peu difficile. Donc,
alors,
je vois que...
Innocent, c'est bien beau de déconfiner, mais est-ce que les gestes barrières sont respectés? Je vous pose la question, j'ai sous les yeux le commentaire de Maestro. Maestro, c'est peut-être un pseudo, mais en tout cas, il nous a écrit sur Facebook. Il nous dit « La situation était presque contrôlée après les premières mesures de confinement partiel, notamment avec la fermeture des débits de boissons et autres espaces de loisirs à forte concentration démographique. Et à la surprise générale, tous ces endroits ont été les premiers à voir la levée des mesures. Au lieu de soutenir financièrement ces secteurs, eh bien le gouvernement camerounais a fait le choix, nous dit cet auditeur, d'exposer la population au virus. Du coup, à ce jour, nous sommes à plus de 10 000 cas enregistrés. La gestion de la pandémie est chaotique dans ce pays, affirme donc Maestro. Innocent, vous êtes content de ressortir, d'aller au travail, mais vous respectez les mesures barrières ?
Effectivement, c'est ce que moi, personnellement, moi, je respecte les gestes barrières, mais l'effort, c'est de constater que le gouvernement ne prend pas acte de suivre dans les espaces publics parce que vous savez que dans les transports, dans les bars, ils ne sont pas respectés. Complètement, ils ne sont pas respectés. Quand vous voyez dans les bars, surtout dans les bars, les transports, au lieu de, vraiment, les gens ne sont pas respectés les distanciations physiques et surtout les gestes barrières, laver les mains, porter des masques. C'est un peu terrible.
Ouais. Innocent, merci infiniment de nous avoir contactés de Yaoundé. Prenez soin de vous, évidemment, et à très vite. N'hésitez pas à vous nous rappeler quand vous le souhaitez. 33 9 693 693 70. Macky, en Guinée, revient sur le discours du président Alpha Condé. C'était lundi soir. Le chef de l'État guinéen a annoncé un allègement des restrictions. Bonjour Macky.
Bonjour Monsieur Wan, bonjour à l'ensemble des millions de vos auditeurs.
Merci, merci de nous appeler. Macky, avez-vous été rassuré, convaincu par le chef de l'État?
Pas du tout, pas du tout. Le lundi dernier, le président de la République de Guinée a annoncé la reconduite de l'état d'urgence sanitaire sans pour autant accompagner cette annonce par des mesures d'accompagnement. À un moment où le quotidien de Guinée est très difficile, le Guinéen vit le jour le jour.
Oui, au jour le jour. Je suis d'accord, et vous êtes très nombreux à nous le rappeler chaque semaine en disant le confinement n'est pas adapté à la réalité de notre quotidien sur le continent africain. Il a tout de même annoncé, le président de la République, un allègement du couvre-feu. Les lieux de culte vont pouvoir de nouveau ouvrir la semaine prochaine. On annonce également le retour des élèves et des étudiants donc dans les écoles et dans les universités à partir du 29 juin.
Oui, c'est là aussi que la situation est plus dangereuse, parce que le président de la République annonce la réouverture des universités et des classes d'examen. Si nous prenons le cas spécifique des étudiants et des professeurs, qui, comme à leur habitude, seront obligés d'emprunter des taxis pour se rendre dans les universités. À un moment où le coût du transport a été doublé à la République de Guinée. Le transport a été augmenté de 100%. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Vous êtes dans un quartier comme Wanindara, qui est dans le centre de la capitale. Pour quitter Wanindara et se rendre à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, il vous faut 36 000 francs guinéens. C'est à peu près 4 euros.
4 euros.
Alors que la Banque mondiale, à peu près la Banque mondiale nous dit, le revenu journalier moyen de Guinée est inférieur à 1 euro. Imaginez la différence.
Ouais. Comment les transporteurs ont augmenté leur prix parce qu'on leur a demandé de prendre moins de personnes à bord.
Voilà, ils ont annoncé de prendre moins de personnes et ils ont refusé de diminuer de manière considérable le prix du carburant. Mmh. La solution serait de diminuer de manière considérable le prix du carburant qui va impacter le coût du transport pour les étudiants, les professeurs, mais pour tous les Guinéens. Mmh. Et un autre facteur qu'on n'a pas pris compte, c'est dès l'annonce du coronavirus en Guinée, plusieurs étudiants et professeurs qui étaient à l'intérieur du pays au raisin Conakry, on leur demande de repartir pour la réouverture à un moment donné où Conakry est officiellement coupé du reste de la Guinée. Mmh. Comment ces derniers pourront se rendre dans leurs universités respectives qui se trouvent à l'intérieur du pays?
Oui.
La solution serait aussi dans ce cas de délivrer, de laisser passer pour ces étudiants et professeurs, mais de laisser passer obtenu à l'issue d'une visite médicale confirmant que ces derniers sont négatifs à la Covid-19.
Et donc visiblement, à vous entendre, Macky, vous êtes inquiet, vous, par les mesures annoncées, et notamment la reprise des cours dans 10 jours maintenant. Merci de ce témoignage. Bon courage, Macky. Vous êtes vous-même étudiant, Macky?
Je suis diplômé, mais j'ai un étudiant à ma charge dont on se demande comment on pourra supporter le transport de cet étudiant. Ouais. Et c'est le cas de plusieurs autres Guinéens.
Ouais, le prix du transport aura donc un impact sur votre pouvoir d'achat. Merci Macky de ce témoignage. Un détour tout de même sur la page Facebook de l'émission. Francesco nous a écrit d'Angola. Ici, nous sommes en semi-déconfinement. Il n'y a pas de tests généralisés, pas de plan de soutien alimentaire de la part du gouvernement. La population vit dans l'inquiétude totale. C'est du chacun pour soi. Joachim, en RDC, il nous dit qu'à Kinshasa, nous survivons. À cause de la crise sanitaire, les prix des produits alimentaires ont augmenté, le taux de chômage flambe et notre monnaie, le franc congolais, s'est déprécié face aux devises étrangères. Fabiola, à Douala, au Cameroun, les mesures ne sont pas respectées, nous dit-elle. Porter un masque est même devenu un sujet de raillerie. Je suis victime tous les jours par mes voisins. Pour beaucoup, la maladie est un mythe. Du coup, ceux qui ne la prennent pas au sérieux sont exposés à cause de la négligence des autres. Au standard, avec nous, Moustapha. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Moustapha, vous êtes à Parakou et vous nous interpellez, vous, sur la décision du président béninois Patrice Talon de débloquer 74 milliards de francs CFA pour aider les entreprises, les salariés, les personnes les plus vulnérables à faire face aux conséquences économiques et sociales, aux conséquences de cette crise, hein, qui est sanitaire, mais on voit bien les répercussions qu'elle a dans le domaine économique et social. Moustapha, vous avez été convaincu, vous, par cette annonce du chef de l'État ou pas?
Ben, convaincu, oui, parce que la décision a été officielle au niveau du gouvernement. C'est une décision du Conseil des ministres. C'est une décision officielle, mais les répercussions, on ne les voit pas encore. Puisque de toute façon, ils ont divisé cette offre en trois, c'est-à-dire une partie pour les entreprises, une autre pour les artisans et une subvention générale portée au niveau de tous les citoyens sur les tarifs de l'électricité et d'eau pour un montant de 5 milliards de francs CFA.
C'est-à-dire concrètement, voilà, Moustapha, vous concernant, je ne sais pas si vous êtes artisan, chef d'entreprise ou salarié, mais quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir bénéficier de cette aide?
Non, moi je ne pourrais pas bénéficier de ça par exemple.
Pourquoi?
Parce que moi, par exemple, je suis un acteur culturel, je suis dans l'événementiel. Uh-huh. Et donc nous étions les premiers à avoir été bloqués dans notre activité. Mais quand vous allez sur la plateforme pour vous enregistrer, il n'y a aucune rubrique qui a été réservée à nous par exemple. Donc nous, on est là, on a fermé tout. Même quand, n'est-ce pas, on a voulu nous enregistrer de façon formelle ou informelle. Il y a trop d'exigences, n'est-ce pas? Et si vous n'étiez pas une entreprise réellement constituée dans le formel, vous n'avez pas la possibilité. Alors que au Bénin, pratiquement 80% de la population active vit dans l'informel. Donc, vous voyez un peu. Donc, nous ne sommes pas du tout pris en compte, surtout ceux qui sont dans l'informel, ceux qui sont dans d'une manière ou d'une autre dans le formel et qui ne sont pas pris en charge sur la plateforme gouvernementale.
Pourtant, j'ai cru comprendre, mais j'ai peut-être mal lu, Moustapha. Hein, vous êtes mieux placé que moi, vous êtes sur place, hein, Moustapha. J'ai cru comprendre que les personnes extrêmement pauvres pouvaient bénéficier de l'aide de l'État.
Eh bien voilà, ça c'est une question qu'on se pose tous les jours. Qui sont ces personnes extrêmement pauvres? Comment on a pu les identifier? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la mesure prend en compte trois grandes rubriques.
Oui, oui.
Et les entreprises, les artisans, peut-être que c'est eux qu'on appelle les personnes extrêmement pauvres, mais dans cette rubrique, vous allez voir les coiffeurs, les couturiers, les soudeurs, menuisiers, petites vendeuses. Comment la mesure va les atteindre? On attend de voir. Moi, par exemple, chez ma mère qui va au marché, et je ne vais pas dire que c'est une personne extrêmement pauvre, mais elle n'a pas accès à ce financement. Je ne sais pas comment on va la contacter. Et aussi, peut-être que c'est au niveau de l'électricité, de l'eau que ça va à jouer, mais on attend de voir. Ce milliard, je ne sais même pas si ça peut faire un mois d'électricité pour toute la population béninoise qui est estimée à 11 millions d'habitants.
Moustapha, je vous interromps, mais j'ai l'impression de couper la parole à tous les auditeurs dès qu'on parle de Covid-19. Vous êtes tous très bavards, mais tous très intéressants. Le problème, c'est que vous êtes nombreux et le temps passe vite. Je vois les secondes défiler, les minutes passer, et voilà, il faut qu'on donne la parole à d'autres auditeurs. Moustapha, merci infiniment en tout cas de ce témoignage et prenez soin de vous à Parakou. Un détour tout de même parce que je me fais votre porte-parole, vous qui nous envoyez des mails, des WhatsApp et des Facebook. Il y a par exemple Samy, il est en RDC, il nous dit que la gestion de la crise sanitaire dans son pays pose problème, il y a des défaillances, le gouvernement n'a rien mis en place pour aider les plus vulnérables et une grande partie de la population ne croit toujours pas au virus. Et Samy revient d'ailleurs sur la démission la semaine dernière du docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui était responsable de l'équipe de riposte dans le sud de Kivu, et il a fini par démissionner car, nous dit Samy, le nécessaire n'était pas fait. Alors effectivement, Denis Mukwege a jeté l'éponge. Vous le savez, depuis le début de cette crise, de nombreuses personnalités ont pris la parole dans Appel sur l'actualité pour réagir à la pandémie de coronavirus. Des témoignages, des réflexions, des analyses. Ce matin, en ligne de Dakar, l'économiste sénégalais Dongo Sambassila. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Dongo Sambasila. Vous êtes économiste, vous intervenez régulièrement sur l'antenne de RFI. On vous interroge pour analyser les différentes mesures concernant le continent africain. Vous souhaitiez profiter de cette carte blanche que nous vous proposons pour nous interpeller sur les enseignements économiques que l'Afrique doit tirer de cette crise.
Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que la pandémie a surtout révélé les faiblesses structurelles de l'Afrique. Et en tant que tel, en fait, il n'y a pas d'enseignement nouveau. En fait, c'est plutôt de répéter les enseignements qui ont été, les propositions de politique économique qui ont été avancées par les économistes africains hétérodoxes depuis un certain temps. Comme par exemple la nécessité pour l'Afrique, disons, de relocaliser la production. Il est important que l'Afrique produise sur place, consomme sur place, transforme sur place ce qui est possible de produire sur place. C'est important. Il est important d'avoir beaucoup plus de souveraineté monétaire. Et quand on parle de souveraineté monétaire, c'est la capacité pour les États à financer, disons, dans leur propre monnaie, les dépenses publiques. Parce que là, ce qui se passe, c'est que il y a un défi sanitaire, il y a le défi de la reprise économique, et la plupart des États africains n'ont pas de marge de manœuvre sur le plan budgétaire.
Ouais. Alors justement, peu de manœuvre sur le plan budgétaire pour aider les États africains à faire face à la pandémie de coronavirus. Le G20 a suspendu il y a 2 mois le remboursement de la dette de plusieurs pays africains. Est-ce que ce geste est une bonne solution?
Disons que c'est un bon départ, mais ça ne suffira pas. Parce que beaucoup de pays africains ont besoin d'avoir accès aux marchés financiers. Et le fait, par exemple, pour certains pays de dire qu'en fait, ils pourraient peut-être geler en fait une partie du service de la dette, notamment la dette due aux créanciers privés, parce que c'est ça un peu la nouveauté. Parce que jusque-là, la dette africaine était détenue principalement par les créanciers multilatéraux, c'est-à-dire les organisations comme la FMI, la Banque mondiale, etc., et les créanciers bilatéraux, donc les pays. Mais là, disons, en 2018, d'après les chiffres de la Banque mondiale, 42% de la dette africaine est due à des créanciers privés, notamment à des détenteurs d'obligations souveraines africaines. Et donc, c'est ça le problème.
Et donc il faut encore convaincre ces acteurs privés d'alléger la dette ou en tout cas de suspendre leur remboursement.
Tout à fait. Mais la difficulté, c'est que la décision même de vouloir geler le service de la dette due à ces créanciers privés-là peut contribuer à augmenter, disons, le coût de la dette pour les pays africains. Et beaucoup de pays africains veulent avoir accès au marché financier. Donc, il y a beaucoup de pays africains qui se disent que finalement, on préfère payer la dette pour garder une certaine crédibilité. Mais en prenant ces décisions également, ils ne se donnent pas des marges de manœuvre pour faire face à la pandémie.
L'Afrique peut sortir renforcée de cette crise sanitaire. Dongo Sambasila, on a eu d'autres intellectuels qui se disent très optimistes. Est-ce que ce n'est pas utopique de croire que après cette crise, l'Afrique sera plus forte?
C'est possible, mais tout dépendra, disons, des politiques publiques qui vont être prises, et notamment de l'inflexion nécessaire à apporter à la trajectoire de développement économique, à l'orientation économique. Parce que jusque-là, on a, contrairement à ce qu'on dit, en fait, l'Afrique est très intégrée, disons, au système mondial. On le voit, disons, à travers le poids du commerce dans le PIB, à travers le poids des investissements étrangers dans l'investissement domestique, etc. Mmh. Ce qu'il faut, c'est aller à un juste équilibre entre l'autarcie et aussi une intégration, disons, prononcée, disons, dans le système mondial. Il faut plus de production locale et plus de marge de manœuvre pour avoir des politiques industrielles, les politiques d'autosuffisance alimentaire et énergétique. Si les pays africains sont prêts à aller vers cette voie, je pense que cette crise pourrait être un moment, disons, catalytique pour aller de l'avant.
Nous n'avons pas le choix, nous devons changer de cap. Il est plus que temps. Voilà, c'est la dernière phrase d'une lettre collective que vous avez adressée aux dirigeants africains il y a quelques semaines, Dongo Sambasila. Merci infiniment d'avoir pris quelques minutes ce matin, de nous avoir livré votre analyse sur les conséquences et les répercussions économiques de cette crise sur le continent africain. Il y avait d'autres auditeurs, évidemment, qui souhaitaient prendre la parole. Ce matin, Arsène Alobé, Youssouf Anouakchott, Nguessan à Grand Bassam, Bergelat à Brazzaville. Ne vous inquiétez pas, on garde le contact, on sera de retour lundi, évidemment, mais vendredi prochain pour continuer à vous donner la parole sur la pandémie de Covid-19. On marque une pause, on retrouve l'ensemble du service Afrique pour la dernière édition d'Afrique Matin et on revient dans 10 minutes pour la Libre Antenne. À tout de suite.